19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Dans quelques instants, ce sera la case de Seb avec direct en gros différé. Mais tout de suite, attention, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parfait toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre tête les plus belles images de la BD franco-belge, du comics et du manga. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure un peu spéciale puisque j'ai choisi de vous diffuser la longue interview, double interview réalisée à Angers Geek Fest par l'intermédiaire de Destination Angers et de l'agence Leno qui nous a permis encore une fois d'être sur place et de faire un petit peu les foufous, et c'est une double interview avec laquelle on a échangé avec Gastronogeek qui était là, sur lequel on a parlé un petit peu BD et de ses projets qui depuis le temps sont devenus pour quelques-uns des réalités, et puis également avec Boris Beuzelin et Tony Emeriot, sans compter l'ami Romain qui s'occupait à la fois de la technique et de certaines questions-réponses. J'ai choisi de ne pas couper tous ces morceaux-là parce que c'est vraiment fun d'écouter un petit peu l'ambiance. Alors, il y a certaines références qui vont peut-être vous échapper puisque vous n'aurez pas les visuels tels que nous les avons eus. Je rappelle que c'était un enregistrement qui a été fait en direct avec tous les avantages et inconvénients que cela peut procurer, mais ça vous donne au moins une idée de l'ambiance qu'il régnait. Je vous laisse tout de suite avec cette grande interview.
Radio G 101.5 FM.
Ah, m'entends-tu? Est-ce que ouais, tu m'entends? Ah, faire, je m'entends, ça y est, c'est bon.
Ouais, pas de soucis. Ok.
Putain, c'est beau.
Waouh, hey, il y a de la réverbe.
Ouais, parce que ouais, tout le monde nous entend.
Non, on a l'impression d'être dans une... Non, tout le monde nous entend?
Ouais, tout le monde nous entend. Ah. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, le monde.
Ouais, vois, mais ouais.
Les là, ceux qui sont là.
Un petit échantillon.
Bah, il y a 3 personnes actuellement. 4.
5, 6, 7, 7. Bonjour madame.
Bonjour.
Enchanté.
Bienvenue.
Cordialement.
Vous êtes fabuleuse.
Voilà.
Alors, je suis en compagnie de 3 personnes.
Lara Croft. Regarde Lara Croft. Bonjour Lara Croft.
Laisse le bosser.
Enchanté. J'adore l'idée qu'on nous entende. Sans déconner, j'aime beaucoup.
J'ai pas arrivé à tenir le timing.
Ah, c'est mort.
Et le monsieur qui n'est pas du tout cosplayé. Alors,
Tony Muriel,
on
n'a
pas fait d'effort sur la tenue, qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, on va partir sans lui.
ouais, démarre. Hein, parce que
qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bonjour Thibaut Villanova.
Salut.
Surtout connu sous le pseudo Gastronogeek.
Ouais, c'est ça.
Moi, ce que j'aime bien, surtout que les gens se présentent, comment t'en es arrivé à devenir Gastronogeek?
Bah, le trafic de drogue, c'était franchement illégal et pas facile à organiser à Chartres. Pourtant, il n'y avait pas une grosse concurrence. Non, j'en suis arrivé. Le nom, c'est les gens qui me l'ont donné. Moi, à la base, j'ai fait un livre qui s'appelle comme ça. Et enfin, une collection de livres. Comment j'en suis arrivé là? Et c'est un alignement de planètes. Il y a 10 ans, les émissions télévisées liées à la gastronomie cartonnent sur toutes les chaînes. Tout le monde pense en même temps, dans le même monde, tout le monde pense que les geeks ne bronzent qu'à la lumière de leur écran et ne mangent qu'un régime constitué de chips, pizza, coca. Et en parallèle, je bosse dans un lieu à Paris où on fait de l'événementiel lié à la pop culture et où la dimension cuisine n'existe pas. Et en parallèle, je fais du jeu de rôle et j'organise des soirées à thème et pour lesquelles je fais, pour que tout le monde reste en immersion, je fais la bouffe. Du coup, j'ai un peu l'affinité du truc. Moi, je suis issu d'une famille de gens qui font à manger.
Ok.
Et mon père, il est boulanger-pâtissier, ma grand-mère était cuisinière, mes cousins sont cuisiniers de métier. Donc chez moi, tout le monde sait à peu près
faire
ça.
T'as baigné dedans depuis tout petit,
quoi. Ouais, plus ou moins, voilà, exactement. Et du coup, grosse époque des web-séries. Moi, le lieu que je pilote, je le prête en décor pour beaucoup de web-séries. Donc j'entre dans ce monde-là et machin. Et on se dit, on a qu'à faire une émission de cuisine un peu à la Maïté, tu vois. Cuisiner mousquetaire, mais de l'espace, tu vois. Ouais. Et en fait, toutes les prods parisiennes nous disent, putain, mais c'est trop bien, mais on a trop pas d'argent pour le faire. Et moi, j'ai pas prévu de bosser gratos. Enfin, moi peut-être, mais pas les gens avec qui je bosse. Pas envie de les faire bosser gratos. Du coup, on a enterré le truc. Et ma meuf, qui est DA et illustratrice, m'a dit, mais non, t'as un super matériel pour faire des livres. Va voir un éditeur. On a été voir Hachette. Je te fais très. On a été voir Hachette. C'est très bien passé. L'objectif, c'était 6 à 10 000 ex la première année pour voir si ça tourne. On a fait 30 000 en 3 mois et on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et du coup, j'ai tout plaqué pour faire que ça, de la cuisine tous les jours, des séries, du jeu vidéo, parce que voilà, et puis de non-stop depuis 10 ans, et voilà.
Et comment tu te nourris, on va dire, ouais, pour prendre le bon terme, de ces séries pour arriver à faire des recettes?
Bah,
tu prends
dépend.
L'existant ou tu
vas ouais, ouais. Alors, t'as deux phases, t'as deux axes qui sont très simples. Soit le plat, il existe dans la référence. Les ramen de Naruto, tout Food Wars. Les bols de Chan que mange Goku par centaine, tu vois, ça existe. Juste les gens savent pas forcément ni faire des ramen et compagnie. Donc moi, j'apprends toute la technique, j'enseigne comment les faire et les faire à la maison. Ça me permet de passer tout un tas de messages comme où acheter les bons produits, quels sont les bons produits, manger comme vous avez envie. Si c'est de la merde, c'est pas mon problème. Le Seigneur, t'es mort, tu vas jamais tenir. Tu vas jamais tenir ton timing. J'ai 10 minutes.
C'est
mort. c'est Pierre-Alain de Garrigue, le Padge. Voilà, et basiquement, je recrée le truc. Ensuite, mon travail, ça consiste pas que à faire la recette, ça consiste aussi à préparer le décor et à faire la photo culinaire, de telle sorte que t'aies l'impression d'être en immersion. Donc ça veut dire reproduire le décor comme on le ferait sur un plateau de cinéma, quoi, tu vois, trouver les accessoires, les tenues, les costumes et tout ça, faire la photo et prolonger le truc. Ça existe. Si ça existe pas, j'utilise tout ce qu'on appelle l'univers étendu. C'est-à-dire, si l'univers il est assez riche, il y a forcément à un moment un mec qui mange, ou un mec qui chasse, ou un mec qui parle de bouffe, ou un mec qui parle de problématiques à bouffer. Et là, j'utilise tout le côté set design décor, et je propose un plat qui va correspondre à peu près à ce qu'on a pu voir autour dans l'ambiance. Voilà. Mais en général, et à 80-90%, c'est des plats que tu vois et on t'explique pas ce que c'est ou comment on les fait.
Voilà. C'est rare les œuvres où personne mange en fait.
C'est de moins. Disons que c'était répandu dans les années. Basiquement, à part l'Heroic Fantasy, tout ce qui était la science-fiction, cinéma d'anticipation, les gars se posaient pas ces questions-là. Je veux dire, à part Soleil Vert, on s'entend. Hein.
Ouais.
Les gars se posaient pas ces. Ouais, t'es proche de ton grand-père ? Non, arrête. Enfin, tu vas être très proche de ton grand-père. Mais non, plus sérieusement, c'était beaucoup plus compliqué pour les mecs d'imaginer la bouffe de dans 200 ans. Que d'imaginer la bouffe de pour eux il y a 200 ans. Donc je pense que voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a énormément de réalisateurs et d'auteurs qui ont compris que la narration et le temps du repas et le temps du manger, c'était un temps qui était propice aux scènes d'exposition, propice à caractériser leurs personnages aussi, propice à exposer des plans, machin. Game of Thrones, il y a masse scènes de food. C'est pas forcément ragoûtant, mais bon, normalement tu te fais éventrer à tous les mariages. Mais du coup, il y a à manger.
Il y a à manger.
voilà. Enfin, tu vois tous ces trucs là. Et de plus en plus, on va caractériser les personnages à travers ce qu'ils aiment manger. Et enfin, il y a des marques qui ont bien compris le délire. Ça marche beaucoup au Japon, beaucoup en Corée, où il y a beaucoup de marques qui vont performer avec leurs produits parce qu'elles vont être en partenariat avec le créateur et que le mec, en fait, pendant ces trucs, il va manger des cup noodles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va être un trait de son personnage et un an après, on va te faire le partenariat tel K-drama avec cup noodles et pan et on en vend 2 milliards et ça marche très bien. Hein. Et du coup, c'est maintenant la boucle est bouclée.
Super. On va partir un petit peu rapidement, on va vite, hein, sur tes ouvrages.
Ouais.
Les ouvrages estampillés gastronomiques en tant que tel direct, et après il y a des ouvrages qui sont plus thématiques. Alors, il y a Zelda, il y a.
Alors, ouais, c'est un peu c'est particulier. Gastronomique, c'est une collection, c'est le nom de la marque, du concept, de tout ça. Voilà. C'est un esprit de collection aux éditions Hachette. Quand on fait un livre sous licence, moi, je mets mon travail au service de la licence. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de marquer Gastronogeek sous un gros logo Disney, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est qu'on fait le livre Disney. Mon logo, il arrive au dos et tout ça, mais c'est fait par la même équipe photo. C'est toujours ma meuf qui fait la DA, c'est toujours moi qui fais les recettes. On porte tout le projet, tout pareil. Sauf que quand on travaille sur une grande franchise comme ça, bah moi, je m'inféode à la franchise. Et c'est totalement normal. Mon rêve dans la vie, c'était de faire de bosser avec Lucasfilm pour faire un livre Star Wars et on l'a fait et du coup je suis très heureux qu'il n'y ait pas un logo Gastronogeek sur la coupe mais qu'il y ait un gros logo Star Wars déposé copyrighté avec mon nom marqué dessus parce que tu vois j'ai l'impression d'apporter ma petite pierre, mon petit caillou à l'édifice du truc et c'est cool tu vois. Et ça c'est comme ça. Après il y a la cuisine dans Ghibli, la cuisine dans Zelda, c'est parce qu'il faut faire évoluer la marque et que on veut aussi toucher un plus grand public et il y a énormément de il y a un million de fois plus de gens qui me connaissent pas comparativement à ceux qui me connaissent et du coup Zelda, Ghibli, ça parle beaucoup plus.
Normal. Et est-ce qu'il y a des j'amène mon histoire progressivement.
Vas-y.
Est-ce qu'il y a un univers de dystopie ou d'utopie que t'aimerais mettre vraiment en cuisine?
Oui, alors bah, avec Zelda j'ai fait dans l'idée, Zelda c'était mon projet de vie en fait. J'ai fait ces 10 ans de boulot, l'objectif c'était de faire le Zelda. C'était un jour de faire le Zelda.
Il y avait une ligne
Ouais. Moi, c'est Zelda, c'est la référence dans ma vie. Elle m'accompagne depuis que je suis enfant. C'est un truc. J'ai grandi avec. J'écoute non-stop. Tu vois. Il y avait deux trois trucs que je voulais faire comme ça. Et ensuite cuisiner pour des gens que j'admire. Et j'ai eu l'occasion de le faire aussi régulièrement. Et ça, c'est cool. Mais Zelda, c'est un truc fort pour moi. En cuisine, en plus, c'est fourni. Et je commence à m'intéresser à ce qu'on pourrait faire avec des références science-fiction. Je fais Star Wars, ok, mais Star Wars c'était un rêve aussi, mais c'était plus. Moi j'ai grandi avec ça, c'est fondateur de la pop culture d'aujourd'hui, et c'était important, c'est un super achievement, tu vois. Non, j'ai fait Dragon Ball. Pour l'instant, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Il en reste deux, mais je te dis pas lesquels, parce qu'on va les faire.
Ok.
Et on veut réserver la surprise, et on va en faire un même cette année. Et voilà, mais vous verrez ça. Vous suivez-moi sur les réseaux et vous verrez ça.
Oh le teasing.
Ma question qui venait derrière, c'était quels étaient les prochains Gastronogeek à sortir.
Ah, je peux te donner une réponse à ça si tu veux. Je fais un livre avec Marie Palot, qui est une journaliste et animatrice d'origine, coréenne, et qui est spécialiste de culture japonaise et culture coréenne. On fait un livre sur les K-dramas, les séries télé coréennes.
Okay.
Donc c'est très très vaste. Ça sort en juin. C'est un petit format qui va être très sympa, bosser comme d'hab. Ça fait deux ans que ma meuf remplit ma télé de K-drama. Je me suis dit qu'il fallait que ce soit utile à quelque chose. Et en plus, surtout en Corée du Sud, ça mange de ouf. c'est beaucoup plus. Il faut se rendre compte qu'au Japon, ils sont gourmands, ils mettent de la bouffe partout. En Corée, c'est-à-dire que c'est à se demander s'il y a des scènes d'action comparativement au nombre de scènes où ils bouffent les mecs, quoi. Donc c'est vraiment assez chouette. En fin d'année, on fait un livre dont je ne peux pas te révéler le thème pour une basse question d'embargo, mais qui va tourner autour d'un cinéma, je dirais macabre et fantastique. Okay. Normalement, avec ça, tu peux trouver. Et puis voilà. Et ensuite, les livres d'après, j'ai signé avec mon sang, donc je ne pourrais rien dire. Mais on est là, on est sur 6 titres jusqu'à 2024.
Voilà. Ok. Donc il y a une grosse ligne de conduite.
C'est mon taf au quotidien. Hein, la vidéo, TikTok, la créa de contenu, les lives, c'est le soir. Et la journée, j'écris. Ouais. Exactement. Okay. Je cuisine et j'écris.
Est-ce que tu peux nous lire partout où on peut te retrouver?
Alors bien sûr. Alors à partir de 8h32 le matin, je passe par la rue Chanzy. Et après le connard.
Trop précis.
Et très trop précis. Non, bah écoute, basiquement moi je suis sur Twitch à peu près 20h par semaine, twitch.tv/gastronogeek, majoritairement le soir à partir de 21h, et le jeudi de 11h30 à 13h30 tous les jeudis pour une émission qu'on a basiquement appelée, parce qu'il fallait que ce soit très très simple à comprendre, manger. Voilà, venez donc manger. Voilà, avec un invité, 2 heures de cuisine en plateau avec un invité, on fait à manger. Voilà, YouTube, je continue à publier du contenu moins régulièrement, mais toujours un peu. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis tous les jours sur Twitter à gueuler et sur Insta à poster des photos de bouffe.
Super.
Voilà.
Et ben merci Thibaut.
Merci beaucoup. Merci énormément.
Normalement, on est bon timing.
Ah bah, écoute, non, mais tout à fait. Tout à fait, je vais avoir mon train. Et super. Grâce à toi, je verrai grandir mon fils. Merci.
Ah, tu parles?
Tant pis. C'était rapide.
On discutera une autre fois. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave.
J'ai dit d'accord. Ça va, vous avez ce que vous voulez?
Ouais, impeccable.
Merci en tout cas.
Merci, c'est cool, hein, t'inquiète. Et c'est un vrai régal de te regarder, de t'entendre.
C'est ce que me dit ma femme.
Elle est moins objective, je pense.
Je pense qu'elle me ment.
Bah, vous aimez
bien les mecs.
Eh bah,
je te laisse. Ouais.
Qu'est-ce que je veux dire? Tu fais des
conventions,
tu seras à Bordeaux ou pas?
Non, on est au Paris
Fan
Festival.
Ah oui, bah, je n'y suis pas. Hein? Non, mais je n'y suis pas parce que c'est ma meuf. C'est le même week-end. Attends, c'est quand? C'est le week-end du 14 avril.
Je crois, il me semble.
Ouais, c'est ça, je pars en Irlande pour tourner. Mais
close to the sky, ready to fly. Nothing but close to the sky. Break up, hard stuff, fucked up. I wanna leave it all behind. No town, unknown, restart. Now I'm living on my own. Time where it began, but I love to thank you for the memories we share. Oh baby, we save the moments, the good, the bad ones. Remember you and me. Oh baby, we can't go back. Oh, I can't forget.
Oui, toi qui bois, je te vois. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez envie.
C'est un blind test de cosplay qui passe, quoi.
Ah ouais, un blind test de cosplay.
T'étais en train de meubler, là, pendant.
Alors là, moi, je dis Pikachu. Voilà. Là, nous avons... Kira... J'ai plus le nom de famille. Jojo's Bizarre Adventure. Pas mal. Beerus. C'est ça, hein, je me trompe pas.
Le chat moche dans Dragon Ball Z.
Le chat qui a pas envie de prendre sa douche, tu sais. Le
ouais,
chat.
C'est ça.
C'est pas mal. Faudrait qu'on fasse ça l'année prochaine. On va faire que du live pendant
très
plusieurs heures
à faire en attendant Boris. Costumé,
voilà. Là, le monsieur est en costume d'humain. Très réussi. Bravo. Ah oh, magnifique costume de Boris Bozlin. De quoi?
Ça, c'est Yokwan. C'est son pseudo Yokwan. Sur
ah ben oui.
Récréa 3.
J'arrive pas à l'incruster celui-là, tu vois.
Il y a pas trop de cosplay.
Jaune et noir là-bas.
Jaune et noir. Oui, mais ça fait bizarre, ça fait chevalier miaou.
Tout ça. Jaune
tout
et noir.
Tout au fond là-bas.
Plus personne.
Voilà, il est parti avec le chevalier là-bas. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore un Pikachu ici.
Bonjour Pikachu. Il y a le Scooby Gang qui arrive là.
Ah, le Scooby Gang, magnifique Scooby Gang.
Suivi par Spider-Man.
Bonjour le Scooby Gang.
Il en manque deux. Bravo. Ils sont où? Vous les avez perdus?
Ah ouais.
Je sais où ils sont garés en plus.
Ah, ils sont partis manger. Ben oui, mais normal, les deux. Forcément.
Samy
et Scooby.
Sandwich.
Voilà, allez, voilà. Ouais. On arrête de dire des âneries?
Oh bah. Oh non. Ouais, il faut me dire stop, hein, sinon ça.
Bonjour Spider-Man. Ça va, okay. Spider-Man?
Rien à foutre, Spider-Man. Hein?
Mais il a une mission, lui.
Sa route, là.
En fait, en vrai, c'est Peter Parker. Voilà.
Mais ça va.
Il pourrait se cosplayer en Peter Parker, quoi.
Il y a un tout petit Deadpool là avec un Rorschach, mais on les voit pas en fait, ils sont derrière le paravent. Voilà, regarde.
Bonjour petit Deadpool.
Non, petit Deadpool.
Il ne s'est pas reconnu.
Eh oui, bien, on nous entend tout le monde. Salut, t'as fini ton bubble tea? Faut en demander un autre.
Tiens, et là, regarde les deux là.
Mais là, je connais pas, tu vois, j'identifie
pas. J'ai pas la
ref,
non.
J'ai pas la ref. Excusez-nous, on n'a pas la ref de votre costume.
C'est là qu'on voit qu'on est vieux.
Ouais. Elle va le dire dans le micro.
Ah.
Je suis Shao de Genshin Impact.
Mais bien sûr. D'accord. Mais
votre collègue qui est Genshin Impact aussi.
Les mecs, vous êtes nuls.
On savait. Super. Eh ben très stylé en tout cas.
Moi c'est Zongli de Genshin Impact.
Eh ben super.
Grosse thématique Genshin Impact hein, finalement.
Bon ouais, filon.
Voilà, c'est ça.
Bah oui, non mais.
Bravo pour la recherche, monsieur.
Voilà. Plein de personnages.
Ah, c'est une très très belle référence. Ah, bah, c'est les Watchmen.
C'est le premier livre que, sur lequel on tombe quand on rentre dans le Geek Fest, d'ailleurs.
Je suis sûr que ça échappe à beaucoup de monde, mais lisez les Watchmen, c'est très important. C'est
et
très,
relisez très bien. Les Watchmen.
C'est exigeant, mais c'est très bien.
Même tous les spin-offs qui ont été faits après.
Non, bah quand même pas, faut pas exagérer.
Si.
La première itération, elle est très bien.
Ah oui.
Ouais, le film est absolument extraordinaire et d'une fidélité redoutable par rapport à la BD.
Alors, ah, je suis d'accord, on n'est pas très nombreux, mais je suis. Ah oui, la fin en l'occurrence, elle est,
oui,
c'est
voilà,
pas la même.
Quand même.
Je suis assez d'accord, et on n'est pas nombreux à l'aimer, donc ça fait plaisir de vous rencontrer.
Il y a une belle scène d'amour entre super-héros, moi j'ai. Et ça commence par Dylan, non? Le Long the Watchtower en plus pendant le.
Oui, bon, ouais. Ok, d'accord, ça donne. Ouais. Non, c'est sur la fin.
Ah, c'est à la fin?
Ouais. Ah, et All Along the Watchtower, c'est pas Dylan, c'est Hendrix.
Bah, je sais pas, il y a eu les deux versions.
Oui, mais là, c'est celle d'Hendrix.
Waouh.
Voilà.
Merci les gars d'être venus.
Ah, avec grand plaisir. En retournant des
dédicaces, hein, je me fais rembarrer.
Bon, de quoi vous voulez vous parler? Pourquoi vous êtes là? Alors, je suis avec Tony Emeriot et Boris Beuzelin.
Et Yokwan aussi.
Et Yokwan. Mais il y a que deux personnes, donc imaginez. Ouais. Mm-hmm. Et de. Qu'est-ce que vous faites là?
Alors déjà on est en dédicace tout le week-end avec Boris sur le stand de Imaginaire / Richer, j'imagine. J'ai pas bien compris en fait quelle était la répartition, pour être honnête avec vous.
Nous non plus. Il y a des transfuges.
Et nous dédicassons les deux albums de notre série Steampunk Paria, qui bah, est là pas franchement par hasard, rapport au fait que la thématique de cette année, c'est une... dont tout le monde semble se foutre, hein, très honnêtement,
une dystopie, rapport aux... vous, heureusement,
dystopie,
merci,
utopie, on est en plein dedans. Voilà, oui.
Plutôt uchronie.
Voilà, uchronie, exactement. Ouais, dystopie, ça peut aussi fonctionner, hein, quelque part.
Uchronie dystopique.
Une chronie, et à cette occasion, j'ai essayé de joindre l'organisation du festival, qui ne m'a jamais répondu, pour leur proposer une exposition. C'est dommage. Donc je lance un appel. Si vous êtes dans le coin, venez nous voir sur le stand de Radio G. Ce sera un plaisir de discuter avec vous.
Ça va être censuré.
Voilà.
C'est trop tard, c'est en direct.
Eh ben,
pas
oui.
Du tout.
Oh, non, on est en direct. On là est maintenant, différé. Mais on enregistre pour rediffuser. En...
Ah zut, bon, tant pis.
Voilà. Ça c'est pareil, je ne connais pas votre référence, monsieur.
Voilà, c'est un Fury, ça, non?
C'est un... Oui. Vous êtes quoi? Qui êtes-vous?
Ouais, je suis White Wolf.
White Wolf, eh ben,
White bien Wolf. Sûr, évidemment. On
White
connaît que lui.
Wolf, ok. White Wolf, ouais. Eh bien, bonjour à vous.
Ah, mais oui, c'est écrit.
C'est comme le pense à lui
aussi. Merci. Et bon courage surtout, hein. Il doit faire chaud là-dessous.
Mais il fait pas super chaud, donc
bah, tu rigoles
là
quoi.
Où on est.
Ouais. C'est vrai qu'on
c'est
gêne
pas
un peu.
Si con. C'est pas si con.
Le studio est placé à un endroit où il fait
hier,
un peu froid.
J'étais en t-shirt là. Ouais. Tu vois.
Sérieux?
Oui, j'avais froid.
Ah, pas là. Hein. Non, c'est pas possible.
T'étais bien le seul.
Ah
hein
non. Oui. Ah, ben non.
Donc, Conan le Barbare Wish arrive.
De quoi ça parle, Paria?
Il est magnifique.
Bonjour Conan.
Enchanté.
Bonjour.
Sublime. Ouais. C'est le meilleur cosplay. Hey, faut s'inscrire ce soir au concours de cosplay parce que c'est le meilleur de tous. Non mais vraiment.
Chrome.
Je sais pas du tout.
C'est juste
quelqu'un. Mais faut y aller, faut y aller. Moi, je voterai pour vous.
C'est à 16h, non? Je dirais de 16h à 18h, mais bon.
Eh ben.
Et où est-ce qu'on peut s'inscrire?
Alors, demande sur le stand de l'Orga qui est juste derrière, là, au commissariat général. Ils vont te renseigner.
Il faut y aller. Et de derrière, c'est encore mieux. Tournez pour voir. Voilà. Ça, c'est.
J'ai beaucoup. Ah ouais.
J'ai eu très clair.
Heureusement qu'on fait que de la radio. Hein.
Avec plaisir. J'entends. C'est vrai? Ah, c'est pas du tout flagrant. Très bien. Ah oui, effectivement, ouais. Félicitations.
Bon,
alors, on est là pour faire notre promo à la base.
Ouais, on parlait paria, utopie, dystopie.
Ouais, donc bah, on est en dédicace des deux premiers tomes de Paria. Ce qui, bah, ce qui est intéressant cette année, c'est de... On est venu l'année dernière, on est venu en dédicace, on n'avait que le premier tome parce que le deuxième n'était pas encore sorti, et on a beaucoup de gens qui reviennent, qui ont pris le premier en se disant, bon bah pourquoi pas, après tout, on peut s'essayer à un achat, voir si ça nous
ça
convient.
Ça n'engage à rien.
Et beaucoup de gens qui ont été convaincus et qui reviennent cette année pour qu'on leur dédicace le deuxième tome. Donc ne serait-ce que ça, ça fait d'emblée plaisir.
En même temps, le premier tome se termine sur un gros cliffhanger.
Oui, mais le deuxième est bien mieux. Et bien plus complet.
Et de quoi ça parle?
Pas rien.
Ouais.
En reprenant depuis le début.
Bah ouais.
Bon, c'est ce qu'on appelle un récit steampunk. Alors, il y avait nos amis de les Geekstoriens qui étaient là les années précédentes, qui sont pas là cette année, qui avaient évoqué le terme
J'ai plus.
Le terme mécatopique.
Ah, c'est ça, ouais, mécatopique. C'est pour être. Pour éviter steampunk, parce que c'est un anglicisme, et puis qu'à un moment donné, il y en a un peu marre des anglicismes, mais là, c'était mécatopique, qui veut plus ou moins dire la même chose, hein, concrètement, mécanique et dystopique. Donc on était, ou utopique, enfin, en fonction de ce qu'on choisit. Dans tous les cas, ça colle aux deux thèmes de cette année. Et c'est un récit qui se passe au 19e, comme la plupart des récits steampunk, à une époque où normalement l'électricité supplante la vapeur, mais là c'est pas le cas. En fait, l'électricité, la vapeur est toujours très présente dans le cœur des gens et dans les rouages des machines. Et là, on démarre dans un Paris qui se reconstruit doucement après une guerre civile qui a duré 2 ans, avec force attentat, force mort. Et l'histoire démarre dans une léproserie où il y a nombre de patients qui sont atteints de la lèpre bleue. Lèpre bleue qui est une maladie qui n'est pas arrivée comme ça par hasard, hein. Elle est arrivée suite à des affrontements entre les forces de l'ordre et les gens où ils ont utilisé un gaz, ce qui n'arrive pas dans la vraie vie. Enfin,
c'est là où tu vois que c'est une œuvre dystopique.
Ouais, complètement.
C'est vraiment très très loin
du réel. Chose qui...
imaginaire.
Ça fait assez peu reflet de ce qui peut se passer aujourd'hui en France. Mais bon. Et du coup, cette scène démarre en fait dans la léproserie. Et dans la léproserie, on a une jeune fille qui évolue parmi les patients sans se poser de questions. Elle n'est pas spécialement infectée, alors que normalement, on est sur une maladie surinfectieuse. Et le médecin en blouse blanche se questionne un petit peu en se disant bah, qu'est-ce à dire ? Comment fait-elle ? Là-dessus arrive un commando lourdement armé qui défonce les murs, défonce aussi les gens, hein, concrètement, parce qu'il y a beaucoup de cadavres au sol.
Défonce les malades.
Leur objectif premier, c'est d'aller cueillir cette demoiselle, en fait, pour l'emmener. On n'a pas encore vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais en tout cas, l'idée, c'est de l'enlever. Et elle, en voyant le sang, elle se met à laper comme un petit chat. Elle prend un peu de force, un peu de courage, un peu de bravoure. Et elle se met à donner un peu de répondant à ses assaillants, qui sont pourtant normalement lourdement armés. Alors, on est ventre 2-3 au passage. Wow. Il y a quand même le plus gros de la bande qui arrive à lui mettre un gros IPN dans la tronche. Il la met à terre. Et il y a un petit cut noir, parce que du coup elle est un peu dans les vapes. Et elle se réveille nue dans un caisson en verre avec 5 personnes qu'elle ne connaît pas du tout et qui ne la connaissent pas elle non plus. Ils sont présentés de manière assez brutale à un monsieur en fait qui se déplace en fauteuil roulant avec un masque à gaz. C'est quelqu'un qui est quand même relativement bricolé, qui a été refait à plusieurs étages, on va dire ça comme ça. Et qui lui dit bah écoutez, moi j'ai du pognon, j'ai du pouvoir, donc je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est me payer une équipe de super-héros, des jouets qui seront à moi et qui m'obéiront au droit et à l'œil comme doivent le faire les jouets normalement. Et l'histoire démarre comme ça. Voilà.
Et un petit peu, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis pour vous quand même.
Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis pour vous. D'autant que vous avez un petit boîtier dans la nuque qui est susceptible de vous balancer une onde électrique assez virulente, malgré tout.
Bon, c'est pas très très friendly quoi.
Bah, on n'est pas sur un. On n'est pas sur un démarrage de comédie. C'est pas. Tu vois.
On est loin de Bourville.
Ouais. Pour ne citer que ça. Mais oui, ça démarre comme ça, grosso modo.
Super. Donc, 2 tomes actuellement. Ouais. 2 tomes qui sont passés en financement. Full lancement. Tiens. Bon, on va faire une francisation.
Un full lancement, c'est bien.
C'est bien.
Ouais. De full lancement qui se sont bien passés. Hein.
Ah, les deux, le premier mieux que. Enfin, le deuxième mieux que le premier. Donc, ça suit une pente ascendante de ce point de vue-là.
En même temps, c'est Comics Initiative qui fonctionne que comme ça, je crois, non ?
Comics Initiative ne fonctionne que comme ça. Ouais. Systématiquement, ils demandent un financement participatif, à savoir la Vox Populi, pour savoir si un projet doit voir le jour ou non. Et comme disait Boris sur Paria, ça s'est très très bien passé. Le premier, on arrivait un peu de nulle part, donc il y a quand même eu un engouement. On a eu le financement, on est arrivé à un peu plus de 100%. J'ai plus exactement les chiffres en tête. C'est pas folichon, mais c'était encourageant. Et le deuxième, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a transformé l'essai et que là, pour le coup, on a bien vu un engouement éminemment supérieur à la première campagne. Donc, vivement la 3e qui démarre bientôt. Bientôt, normalement.
Il y a une vraie date ou pas ?
Il y a une vraie date, il y a un vrai mois. Il y a le mois d'avril. Après, du coup,
2023. Ça va hyper vite, quoi.
Dans les meilleures configurations qui soient, demain, on est dans le mois d'avril, déjà. Finalement. Donc, on aurait tendance à penser que c'est spontanément fin avril. Mais je pense qu'avril, mai, raisonnablement, on peut considérer qu'il y aurait le démarrage d'une campagne.
pour le Paria 3.
Parce que Comics Initiative, ils ont déjà un full lancement en cours là en ce moment.
Mais Comics Initiative, alors en fait, il en a tellement en ce moment qu'il est en train de chevaucher les financements participatifs. C'est ça qui est complètement dingue. C'est qu'il n'a même pas le temps de finir une campagne, qu'il y en a une autre qui démarre. Et étonnamment, il arrive à fidéliser comme ça, les gens le suivent. Je sais pas, peut-être que le nom de Comics Initiative résonne comme un gage de qualité, tu vois, éditorial en tout cas, et que ça ne désemplit pas. Donc on a, nous, bon espoir qu'au troisième, on ait encore un peu plus de disciples, si on peut appeler ça comme ça, que pour le premier et le deuxième.
Parce que c'était prévu dès le début en 4 tomes, c'est ça ?
Dès le début, c'était prévu en 4 tomes et ça restera 4 tomes jusqu'au bout. S'il y a un énorme succès sur les 4 premiers qui représentent le récit principal, tu vois, le vraiment le tronc de l'arbre, peut-être qu'on pourra rajouter quelques branches de ci, de là, mais c'est vraiment 4 tomes et l'histoire sera bouclée.
Est-ce qu'on aura des choses comme vous avez expérimenté sur le... Tu voulais parler, Boris ?
Non, je fais des signes à Boris, mais j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure.
Mais c'est comme...
Il a l'habitude aussi.
Le grand pop.
Le grand pop, bonjour.
Ça n'a rien à voir, mais... rien à foutre le grand pop. Hein.
Non.
C'est vraiment. Attention, il est autre chose. Il est sur son piédestal.
Le grand pop et la Princess Peach. Merde, on va se faire bâcher. Ouais. Gaffe, je connais des mecs qui montent super bien les escaliers.
Il a pris la confiance.
Aïe. Bonjour.
Cordialement, et vous-même. Très
très bien. Ah bah, parlez un petit.
C'est très difficile avec le masque.
Bah, j'imagine, ouais, il doit faire super chaud là-dessous.
Hyper lourd en plus.
Ouais, ça va. La chaleur, c'est bon. Mais de parler et vous entendre, c'est difficile.
C'est une question d'isolation.
On peut spoiler en disant que c'est le chevalier. Non, on peut pas.
Ben non, parce qu'on sait pas en fait.
Tant pis. Il y en a qui n'ont pas vu la série encore.
C'était la bagarre à l'école pour savoir qui avait le meilleur chevalier. Moi, je savais. Donc,
moi aussi, d'emblée. Le bien.
On était où ? Oui, du coup, est-ce qu'on aura des guests à nouveau comme ça a pu être le cas dans Paria 2 ?
Ouais.
On a déjà des noms ?
On peut ou pas, non ?
Ah,
sur la couve, je pense que du coup, il n'y a pas de.
Sur la parce que ça fait moins de Boris en fait.
Alternative, on a...
Sur la couve du 3.
Du 3, ouais.
Parce que sur le 2, en fait.
Un dessinateur qui a déjà produit une maquette. Une qui l'a même fini d'ailleurs.
Une couverture alternative ?
Ouais,
spéciale.
Une variante.
Ulule.
Une variante qui va être sur le collecteur et qui est un acteur, un auteur origine espagnole qui officie pas mal aux États-Unis.
Ah ouais.
Qui s'appelle, je suis en train de teaser parce que je me rappelle plus de son nom. C'est terrible. Hein.
Le temps que cette interview soit censurée, de toute façon, on sera en plein full lancement.
C'est Victor Santos en fait qui nous fait la couverture du troisième tome.
Et ben,
voilà.
Super.
Ouais.
Donc la couverture alternative, il y aura quand même une couverture faite par Boris.
Il y aura une couverture faite par Boris qui sera la couverture régulière qu'on trouvera dans le commerce et puis la couverture régulière qui ne sera que pour les heureux contributeurs, financeurs auront droit. Alors après, bien évidemment, il y a des libraires qui peuvent participer à l'aventure qui auront aussi ces exemplaires. Donc il y aura très peu d'exemplaires de la couverture collector sur le marché, mais il y en aura quand même quelques-uns.
Super. Et à l'intérieur, il y aura des guests aussi ou pas ?
À l'intérieur, il y aura des guests, ouais. Il y aura des guests. On peut déjà citer le nom de Damien Geffroy, en fait, qui est un copain, qui est un auteur angevin. Souvent, on va pas chercher très très loin. Et qui officiera au même titre que Bones et Dominique Enbo sur le deuxième tome, à savoir dans les petits...
Gazettes
les... Non, pas dans les gazettes, dans les formats carrés, du coup, qui sont des... Après, comme t'as pas lu le deuxième, tu vas t'embêter.
T'en as la page 29, donc tu n'as pas vu encore.
Allez, le petit tacle. Pam.
Mais du coup, c'est des espèces de vinyles, en fait. Des espèces de petits ménestrels qui sont inhérents à l'histoire et qu'on retrouve à la fin, qui ont été illustrés, un par Bones et un par Dominique Enbo, qui sont muets et qui ont vocation à être écoutés en même temps qu'être lus. Et là, on a demandé à Damien de s'occuper d'un des segments. Et sur le deuxième segment, on n'a pas encore de guest. Mais on est en train de réfléchir et bon, on a quelques noms qui seraient susceptibles d'accepter et puis de remplir la mission haut la main. Donc bon, au moins Damien pour sûr, après la suite on verra.
Et bien top, ce sera à découvrir dans le financement participatif. On va passer la balle à Boris.
Ah ouais, s'il vous plaît.
Parce qu'effectivement,
arrêtez-moi,
t'es pas prêt.
Parce que là, il boit du thé, mais tout à l'heure, c'était pas du thé.
C'était pas du thé. C'est ça. Et ça me fait parler, c'est fou. Hein.
Comment. Alors, c'est une question que je t'ai déjà posée au moins deux fois. Comment on conçoit en fait un univers mécanique.
Mécatopique.
J'avais perdu le mot. Visuellement.
Alors moi j'ai assez peu de références dans le steampunk classique, donc c'est un univers que je connais peu. Donc c'est aussi un avantage parce que du coup moi j'ai pu projeter exactement des choses qui me plaisaient. J'avais envie de faire un univers qui était moins rococo et baroque que ce que j'avais pu voir qui collait à ce type d'univers qui en général très 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 fourni avec beaucoup de petits objets et moi je voulais faire quelque chose de plus brut qui correspond plus à ce que j'aime,
plus industriel, c'est vraiment
ouais, voilà, plus induit, c'est exactement ouais. Donc ça collait pas mal avec l'idée de Tony qui est l'idée d'un univers qui est en fait à cheval entre quelque chose qui s'effondre et quelque chose qui se reconstruit. Donc on est dans une période transitoire où c'est un univers qui se cherche. Et du coup, le graphiquement, et bien c'est la même chose. C'est-à-dire que plus l'histoire avance, plus l'univers se construit. Mais au début, effectivement, c'était un univers qui se cherchait aussi dans le dessin. Voilà.
Et c'était une volonté de Tony ou de ta part de faire quasiment que du noir et blanc ?
Alors ça a été... Il y a eu plusieurs étapes. Au début, on a conçu ça en noir et blanc comme on conçoit une BD traditionnelle. On passe par noir et blanc, puis après on se dit on mettra de la couleur. Et on a fait des essais de couleurs qui finalement... Donc couleurs classiques en quadri, comme la plupart des albums maintenant. Et on s'est dit que... Enfin, moi, en regardant les pages, je me suis dit, bon, ça marche comme d'hab, on va dire. Mais il n'y avait pas d'identité plus que ça. Bon, ça marchait, c'était la mise en couleur d'une planche de BD en noir et blanc. Et je trouvais que ça manquait d'identité. Donc, après, on a eu toute une réflexion. Pendant très longtemps, le projet a été voué au noir et blanc. C'est-à-dire, on va le sortir uniquement en noir et blanc. Et puis finalement, j'ai refait une proposition couleur qui était basée sur l'idée d'une couleur très sélective et avec peu de moyens, uniquement deux couleurs, hein, jouer sur un bleu et un rouge, et jouant sur des trames mécaniques qui permettaient de faire toute une hiérarchie de valeurs de gris intermédiaires, enfin de couleurs intermédiaires. Et finalement, là, l'identité s'est construite à partir de ce moment-là sur... Là, il y avait quelque chose qui a émergé à ce moment-là. Je me suis dit, oui, là, il y a une identité réelle. Donc, on a gardé ça, en fait.
Ben, c'est top. Le rendu est bien. Hein.
D'ailleurs, entre les deux tomes, vous avez sorti un petit fascicule en noir et blanc.
Ouais. Ah, noir. Tout à fait.
Oui, ben, ça, c'était une... C'était une volonté de l'éditeur de montrer aussi le travail en noir et blanc. C'était un peu le résidu de nos réflexions au cours du premier tome où le projet, comme je disais, a longtemps failli être édité en noir et blanc. Donc je pense que l'éditeur a voulu montrer un petit peu ce que ça aurait pu donner en noir et blanc. Et puis après, c'était aussi un petit truc promotionnel qui faisait un peu le pont entre le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, ce petit fascicule en noir et blanc, comme les fascicules de comics classiques.
On pourrait quand même imaginer un jour un petit fascicule full couleur.
Ah, on peut tout imaginer.
On peut tout imaginer, d'accord. Mais
tout imaginer.
Oui. Parce qu'il y a une bonne base de travail, du coup, qui existe.
Oui, oui, non, mais... avec Tony, on est assez attaché à cette idée de fascicule, parce que du coup, c'est... On a l'impression aussi de faire du comics comme les Américains, quoi. Donc de sortir d'abord en petit fascicule et tout. Ça, faut reconnaître que ça a quand même du mal à prendre chez nous, ce côté fascicule. La BD, elle est maintenant clairement identifiée comme étant un objet un peu de luxe, quoi, avec une belle couverture cartonnée, un beau façonnage et tout ça. Ah pardon. Oui.
Et du coup, on parle loin du micro, ouais. Ça marche plus.
Et cette idée de BD populaire, de trucs un peu cheap et tout, ça a du mal à prendre, quoi. Mais nous, on aime bien. On aime bien parce qu'on vient de là. Donc, quand on était jeunes, c'était ce qu'on achetait, hein, les BD. Donc bon.
En parlant, il y a une exception qui fait tilt dans ma tête. Les fascicules façon journaux du Château des Étoiles.
Ouais. Ah oui, il y a eu ça pendant un moment avec les Nestor Burma aussi. Ça, c'était une bonne idée, ouais, de Casterman, qui a été donc reprise par Rutsev sur le Château des Étoiles. C'est un peu l'entre-deux. Ouais, c'est un peu l'entre-deux.
C'est pas mal. C'est collecteur de ces trucs-là et on sait pas. Alors, je pense que globalement, c'est des trucs qui vont hyper mal vieillir.
Oui, ça vieillit comme des objets collecteurs, effectivement, comme des
vieux journaux.
Des trucs qui sont parus en marge de l'album à un moment donné. Ça reste l'album, la référence de toute façon.
Après, il y a des exceptions. Hein, quand tu vois, après, on va s'éloigner un petit peu du sujet de prédiction qui est paria, bien évidemment. Mais Puta Madre chez Ankama. Chez label
ouais c'est vrai
619 ouais, tu vois vrai, ouais, ouais ouais tout à fait label 619 oui, bah, où ils ont sorti Puta Madre en fascicule souple et là pour le coup qui a connu un succès et à contrario je crois qu'il y avait un truc de SF qui avait été initié par il y avait Vatine dessus, il y avait Trondheim
ça s'est
complètement ramassé alors que ça avait quand même vocation à avoir un petit côté cheap et luxe en même temps.
Ouais, mais justement, 8, à cause de
comment
ça.
Infinity 8
Infinity 8, ouais, tout à fait. Ouais.
Et ça s'est gouffré très probablement pour ça, parce que c'était encore une fois à cheval.
Le cul entre deux chaises.
Le cul, voilà. Ouais. Donc, c'était pas assumé complètement cette idée cheap. Voilà. Donc,
Et ça fait quand même deux fois, alors tu me dis si je me trompe, que tu avais un projet en petit fascicule comme ça. Et que tu pars sur des BD. Parce que les Sansons, ça devait être des choses beaucoup plus petit à l'origine, non,
ça devait pas être du fascicule, ça devait être du 46.
Okay.
Du 46 standard, en fait, au départ. Mais effectivement, ça devait être tronçonné ça devait être 46 pages et donc 6 albums de 46 qui formaient une série, quoi.
Ok. Mais, qui a été pas mal réduit.
Voilà, qui s'est transformé en 3 albums de 94 pages, en fait.
C'est pas mal aussi.
Mais oui, mais.
Avec là aussi, sur ton dessin, un trait qui rappelle quand même pas mal le comics, en fait.
Oui, alors, c'était un peu particulier cette histoire des Sansons, parce que, en fait, c'est l'éditeur qui nous a associés, le scénariste et Patrick Mallet et moi-même. On se connaissait pas, bien qu'on connaissait mutuellement nos travaux, et parce qu'on était chez le même éditeur. Mais il y avait une idée de l'éditeur, effectivement, de vouloir donner un ton comics. Et on s'est aperçu très rapidement, au cours du premier tome, qui nous a pris énormément de temps à faire, que ça marchait pas du tout. Donc du coup, dans le premier tome, on voit le résidu de ça dans les premières pages. On a une mise en scène plutôt comics. Et puis plus le récit avance, plus on revient à quelque chose de plus traditionnel, en fait, plus franco-belge.
Bon, ça marchait bien quand même, mais...
Oui, mais dans le travail, non, on s'aperçoit, ça marchait pas. Moi, j'arrivais pas à découper comme un comics le scénario de Patrick. C'était vraiment, on était plus proche du roman graphique que du comics, en fait.
Je faisais un signe à Boris parce que j'ai vu Masque Rouge.
Ouais,
il y a très peu de gens qui ont la référence parce que, bien évidemment, on tape sur des trucs d'aujourd'hui. Masque Rouge, c'est quoi? C'est les années 80.
Venez nous voir, Masque Rouge, s'il vous plaît. Masque Rouge à côté de Deadpool. Venez nous voir. Venez. On va pas vous manger.
Ils sont timides, mais ils ont peut-être.
Non, Deadpool, on s'en fout. Non, c'est pour. Mais Masque Rouge, c'est très bien parce que du coup, il y a beaucoup de jeux. Il y a peu de gens qui ont la référence.
Mais en même temps, on n'était pas nés. On n'était pas nés.
Oui, on était nés. Bien évidemment.
T'es
passé à côté.
Bien bonjour.
Mais très bien, Deadpool aussi. Attention, il y a pas de. Mais Masque Rouge, c'est particulier.
Ben oui, et merci de reconnaître le personnage, c'est pas si souvent.
Avec grand plaisir.
On est spécialiste BD,
tout
aussi,
plaisir est pour nous.
C'est normal.
Donc bravo. Non, franchement, c'est meilleur cosplay du week-end. Voilà. J'ai décidé, j'ai voté, je suis tout seul, je m'en fous.
Il va vous donner son numéro pour que vous puissiez aller récupérer un prix.
Pas, on va pas pousser jusque-là, mais très bon cosplay.
Spécialiste BD, vous dites.
Auteur, mais après, pas spécialiste plus que ça, mais.
Oula,
au secours. En train de se passer un truc.
Oui. Ils vont sortir des armes. Je pense qu'ils ont quelque chose contre les spécialistes.
Une petite carte.
D'accord.
Un masque rouge. Je croyais que c'était une identité secrète. Ils distribuent des cartes.
Merci bien.
Ah, on ira voir ça. D'accord, ok.
On peut suivre Masque Rouge sur les réseaux.
Ah ouais.
Le compte séquentiel.
Je pense que c'est séquentiel.
Non, mais en fait, si tu étais un super-héros aujourd'hui, est-ce que tu serais pas tout le temps sur tes réseaux, sur ton Insta, en train de te prendre en photo, en haut du building et tout
C'est pas être un super-héros. Est-ce que le plus commun des gens à l'heure actuelle.
Ce serait pas des influenceurs, les super-héros?
Non, je pense pas.
Je ne sais pas.
Pour moi, non.
T'imagines si Batman, il faisait
un compte
Instagram. Alors là, j'ai mis un bon pif au Joker.
Mais oui, carrément.
Merci, Masque Rouge.
C'est inspirant. De quoi on parlait?
Ouais, de quoi on parlait?
De paria.
Ouais. Est-ce qu'on est là pour ça quand même à un moment donné? Est-ce que c'est difficile?
Il faut qu'on retourne dans
une dystopie comme paria.
Non. Super facile.
Voilà.
Question suivante. Question...
Et ben, il a juste regardé les infos et paf, tout est venu.
Mais
par contre, on m'accuse beaucoup de me nourrir de l'actualité. Et finalement, non, parce que c'est vrai que on est sur de la. Bah, t'as l'air de douter de mes paroles, mais.
Il y a des histoires de pandémie.
Mais ça a été écrit bien avant. Très sérieusement, ça a été écrit bien avant. En
de
fait,
quoi, la pandémie ou paria?
Ça se trouve, c'est la pandémie.
Paria a été écrit avant la pandémie. Je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques menus aménagements pour que ça colle plus avec la réalité des faits, mais en tout cas, cette histoire d'affrontement dans les rues, cette histoire de confinement des gens. C'était en place bien avant toute la merde qui nous arrivait aux alentours de 2020, je crois, c'est ça à peu près.
C'est ça.
Ouais.
En GeekFest 2.
On y était tous. Et non, pour le coup, ouais, ça a été écrit en amont. Alors je sais pas.
Ça aurait même pu être dit. Ça a été écrit en amont, c'est ça, si je ne me trompe pas.
En aigricomont.
Voilà.
Tout à fait. à la base.
Mais je sais pas quoi raconter de plus, moi, en fait. Allez, suivez Comics Initiative sur Ulule.
Ne serait-ce que pour ne pas rater la campagne du 3, bien évidemment.
C'est ça.
Et puis venez nous voir, là, on est là jusqu'à. Alors ça se termine à quelle heure?
Je sais pas.
9h.
Je sais pas. Jusqu'à
la fin.
Jusqu'à la fin du festival, nous sommes en dédicace sur le stand de Richer. Imaginaire Richer, même d'ailleurs, on pourrait presque.
Il m'a Richer.
D'ailleurs, je crois que tu avais dit que tu serais de retour à 14h15.
Ouais, 14h15, c'est écrit là-dessus, et là, on vient de péter l'horaire. Très sérieusement. Mais on arrive, on est en chemin là.
Mais si, est-ce que vous avez d'autres projets là, les gars, chacun de votre côté?
On n'a pas le temps d'en parler.
On n'a absolument
pas le temps d'en parler.
Un peu, juste.
Non, mais les gens, ils peuvent attendre.
Alors, moi, pour ma part, je peux le dire, parce que du coup, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais je viens de signer deux albums chez La Gouttière. Avec Olivier Supio au dessin.
Tiens donc.
Sur un titre jeunesse qui va s'appeler Gothique Angélique, qui est les I2 par A2.
Waouh.
Qui se situe encore une fois au 19e dans un Londres victorien, immanquablement. Qui va parler des frics, en fait, qui est ma petite marotte depuis très longtemps. Ouais. Qui va s'adresser aux enfants, hein, c'est un titre jeunesse, mais qui va avoir le matériau de base des frics, des monstres de foire, hein, comme on dit vulgairement. La femme à barbe, l'enfant crocodile, le chaînon manquant, comme on appelait ça à l'époque. L'enfant tronc, ce genre de choses, quoi. Donc voilà.
Ok, super ça.
Et ça, c'est pour 2024, hein. C'est pas tout de suite. Hein. On démarre tout de suite.
C'est un challenge un peu de faire un truc pour enfants basé sur un sujet qui même effraie les grands, en fait.
Bah, moi, j'ai toujours été fasciné par l'œuvre de. Alors, qui n'est pas Burton, hein, finalement. Oui. Burton s'est contenté de le produire. C'est Henri Selye, qui me semble, qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. On est sur un matériau qui normalement n'est pas calibré pour les enfants et qui pour autant marche et a proposé une œuvre assez hybride par rapport à tout ce qui se faisait à l'époque et qui fait encore date, hein, aujourd'hui. On voit bien que dans le cœur des gens, ça occupe une place particulière de par son esthétique et de par ses thématiques.
On a même vu des cosplays, hein, ce
qui. Voilà, j'allais y venir. Il y a un cosplay de Jack Skellington qui se trimballe sur des échasses.
Et il y a Selye avec un Selye et compagnie qui sont dessous.
Ah bon?
Ouais, il y a maman Selye et bébé Selye, parce que forcément Jack.
Ah oui, d'accord.
Ok.
J'étais sous le. Mais non, pas du tout. Mais voilà. Donc ça, c'est pour 2024 chez La Gouttière. Titre jeunesse, et puis sinon, 3 et 4, en fait. Le 3, on s'y met très rapidement. Le Paria 3 et le Paria 4 ensuite, qui va suivre naturellement.
Voilà. Être dans la foulée, quoi.
Et Boris
Moi, je suis sur un polar pour Hachette avec Laurent Frédéric Bollet au scénario.
Ah. C'est un genre que t'aimes pas du tout, les polars.
Un format noir et blanc, long format, 150 pages à peu près.
Super.
Ah oui, c'est un pavé.
Ah, c'est un pavé. C'est un pavé.
C'est un pavé de 150 pages.
En l'écoutant, vous voyez pas le Boris qui est. Voilà, il a aussi la tête, ouais, c'est un
tout
pavé.
Tout à fait, c'est un pavé.
Voilà. J'en ai fait 25.
Plus que 125.
Plus que 125.
Eh ben.
Voilà.
Eh ben, super. Eh ben, merci à vous.
Ah, avec
ben,
grand merci, plaisir. Rendez-vous merci, sur le stand Richer, on vous attend. Hein. Sur, voilà. Sur le stand imaginaire, pardon, j'arrive pas à m'y faire.
Ce que vous voulez. Ah ouais. Pas de soucis.
Merci beaucoup.
Quoi, Romain, tu restes ici ou pas?
Ouais, je passe de la musique.
Tu passes de la musique.
Cordialement.
À plus.
Cordialement.
www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour dans la case de Seb avec une interview, un bon moment de rigolade, que ce soit avec Thibaut Villanova alias Gastronogeek ou encore Boris Beuzelin et Tony Emorio pour la sortie de Paria. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Cette interview m'a donné une belle idée pour l'Angers Geek Fest de l'année prochaine. Donc si l'agence Leno et Destination Angers nous entendent, eh ben écoutez, sachez que je veux bien revenir avec un beau projet. En plus, la thématique est une thématique qui me parlait, donc enfin qui me parle parce que je suis en plein dedans. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire de manière très sympa. On se retrouve pas dans 15 jours puisque c'est la dernière mission de l'année ce soir. Par contre, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.
Radio G 101.5 FM.
Can't you?